je voudrais vraiment féliciter la France et l'Allemagne pour leur leadership dans cette filière de la batterie. L'Alliance nous sert de pilote pour dessiner les contours de notre future politique industrielle et nos futurs champions européens.
Et oui, quand on veut, on peut. La preuve cette semaine avec le lancement à Paris par Maroš Šefčovič, commissaire européen à l'énergie, d'une filière de production de batteries pour les voitures électriques, ce qu'on appelle l'Airbus des batteries. 50 ans après la création d'Airbus, c'est une belle référence. La Commission européenne a donné son accord au projet essentiellement franco-allemand de filière intégrée qui devrait aller de l'extraction des métaux rares jusqu'au recyclage des batteries, en passant bien sûr par la production des batteries en France. Pour commencer, une usine pilote devrait permettre la création de 200 emplois dans les deux ans, avant que deux usines en France et en Allemagne commencent à produire les batteries européennes dès 2023. Plus de 1500 emplois à la clé, 5 à 6 milliards d'euros seront investis dans ce programme qui bénéficiera d'un peu plus d'un milliard de subventions publiques. Alors plusieurs entreprises européennes se sont dites intéressées, dont le fabricant français de batteries Salt, propriété du groupe Total, et le constructeur PSA avec sa filiale allemande Opel. Beaucoup trop tard, diront les pessimistes. L'Asie, notamment la Chine surtout, occupe déjà très largement le terrain. L'Europe représente un petit pourcent seulement de la production mondiale de batteries. Mais mieux vaut tard que jamais, répondront les plus optimistes en soulignant que le marché est tellement énorme, 45 milliards d'euros à l'horizon 2027, qu'il y aura de la place pour tout le monde. Et puis les industriels sont déjà au taquet. Ils attendaient juste le déclic. Ce déclic qui a donc fini par se produire après 18 mois d'études et de discussions. 10 ans après la première présentation de Zoé, la voiture électrique de Renault. Quand on veut, on peut.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamp.
Bonjour à tous. Raboter les niches fiscales des entreprises pour financer une partie des baisses d'impôts, c'est l'une des propositions qu'a faites Emmanuel Macron dans sa conférence de presse. Entre-temps, le gouvernement a déjà prévenu qu'il ne toucherait pas au crédit impôt recherche, n'augmenterait pas le taux de TVA de la restauration, n'en remettrait pas en cause la transformation du CICE en allègement de charges. Alors de quelle niche fiscale parle-t-on ? En fait, il y a l'embarras du choix. Bonjour à vous, Emmanuel Le Chypre, Christian Chavagneux.
Bonjour à tous.
BFM Business, contre-alternative économique. Faire participer les entreprises à l'effort national, c'est une bonne idée ?
Bien sûr.
Ah bah, c'est une bonne idée, mais elles y participent déjà trop.
Voilà, le débat est lancé. Et ce sera le sujet donc dans un instant. Des entreprises avec ou sans niche qui se préparent ou se préparent déjà les emplois de demain, dont beaucoup seront automatisés ou en tout cas complètement transformés. D'où l'importance d'agir de façon massive sur la formation professionnelle et l'extension des droits sociaux à tous les travailleurs. C'est ce que préconise le rapport 2019 de l'OCDE sur l'avenir du travail et ce dont nous parlera notre invité qui est l'un des auteurs de ce rapport, Stefano Scarpetta, ce qui évoquera aussi le reportage d'Anaël Verzo dans une société de recrutement où les algorithmes alliés à la vidéo remplacent aujourd'hui les chasseurs de tête. Et puis bien sûr, ma vie au boulot, Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour Yves.
Question aujourd'hui sur...
De Jean-Christophe qui veut savoir pourquoi on parle toujours de système de bonus-malus sur les contrats courts dans les entreprises privées et jamais pour la fonction publique.
Ma vie au boulot, c'est à 10h, moins 5, à tout à l'heure.
Qui fait quoi, quand, comment ? Emmanuel Macron a annoncé des mesures, mais leur mise en œuvre relève du gouvernement. Les ministres vont sortir la calculette aussi, car la question clé, c'est le financement.
Et pour financer tout cela, ce sont les entreprises qui seront mises à contribution avec des coups de rabot importants attendus dans les fameuses niches fiscales. Il en existe, tenez-vous bien, 474, rien que ça. Le patronat, lui, est vent debout.
On est inquiet.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Bon, on a bien compris que les entreprises allaient payer.
Président du MEDEF.
Malheureusement, on voit se dessiner le retour de la politique de la demande qu'on a bien connue pendant 30 ans. C'est-à-dire, on distribue du pouvoir d'achat, c'est bon pour l'économie à court terme parce que ça crée de la consommation. Mais comme notre outil productif, c'est-à-dire nos usines, ne sont pas compétitives, on creuse le déficit et finalement, on détruit la croissance.
Ceux qui sont le plus exonérés,
Philippe Martinez,
d'impôts avec des aides, etc.
Secrétaire général de la CGT.
C'était celui qui était invité hier à ma place, le président du MEDEF. Parce que c'est eux les plus grands gagnants, les très grandes entreprises. C'est plusieurs, oui, c'est plusieurs dizaines de milliards tous les ans. que les grandes entreprises gardent dans leur poche plutôt que de contribuer à la solidarité nationale. On doit être dans un système solidaire.
Mais moi d'abord, depuis le début du quinquennat,
Gérald Darmanin,
nous avons mis en place une flat tax,
ministre des comptes publics.
C'est-à-dire on a limité une augmentation d'impôts, notamment sur le capital, on a baissé l'impôt sur les sociétés. Et il faut désormais que chacun puisse aller dans le sens de l'intérêt général et dans le sens de la force du travail, comme dirait peut-être Karl Marx, si vous me permettez cette citation. Et il faut que le patronat aujourd'hui comprenne qu'après avoir beaucoup aidé les entreprises de France, on a aussi besoin d'eux pour qu'ils puissent effectivement nous accompagner dans la baisse d'impôts.
Je suis contre le bricolage.
Guillaume Larrivé.
Et notre pays a besoin,
député Les Républicains,
de simplicité et de lisibilité fiscale. Et sur les entreprises, en effet, moi je constate que notre pays souffre encore d'un déficit de compétitivité. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de supprimer des niches fiscales pour les entreprises, c'est-à-dire en langage courant, d'augmenter encore les impôts, notamment des petites et moyennes entreprises.
Les deux plus grosses niches fiscales sont des niches destinées aux entreprises. C'est le
Thomas Porcher,
CICE, on l'a dit, et c'est aussi le CIR.
Économiste, membre des économistes atterrés.
Le crédit impôt recherche.
Donc voilà, en fait, il y a des niches fiscales qui ont été faites comme ça, qui s'empilent les unes sur les autres. On a l'impression qu'on les oublie même. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, les niches fiscales, c'est 100 milliards de pertes de rentrées fiscales. C'est deux fois plus, pratiquement, que les rentrées fiscales de l'impôt sur les sociétés. Et ces pertes de rentrées, c'est quoi? C'est de l'autre côté, des services publics en moins, etc.
Le président Macron veut baisser les impôts 5 milliards de moins l'année prochaine pour les tranches inférieures de l'impôt sur le revenu, soit. Mais qui va payer, entre autres, on l'a compris, ce seront les entreprises dont certaines niches fiscales pourraient être rabotées. Lesquelles? Et pour quelle somme au total? La question n'est pas tranchée, le gouvernement y réfléchit. Alors est-ce une bonne piste de réflexion? Qui commence? Christian Chavagneux, Emmanuel Lechypre. Christian.
Alors, qu'est-ce que c'est une niche fiscale d'abord? C'est une dérogation à la loi fiscale, qui vous autorise à pas payer les impôts que vous devriez payer. Alors l'évaluation, du coup, c'est loin d'être évident. Chaque année, dans le projet de loi de finances, on a entendu un des intervenants nous dire le montant des dépenses fiscales, c'est le jargon qu'on emploie à Bercy, nous dit combien il y en a au total. Donc 100,2 milliards pour 2018, et le projet de loi de finances nous dit 98,2 milliards pour 2019, pour l'ensemble des niches fiscales. Là-dessus, combien pour les entreprises? Alors Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, nous a dit 40 milliards sur les 100 milliards, donc 40%. Le problème, c'est que les dépenses fiscales, donc ces niches fiscales, ne prêtent pas, ce calcul ne prend pas en compte ce qu'on appelle les niches déclassées, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la liste des niches pour être mises dans une autre case. Sauf que ces niches, elles ont beau être déclassées, elles sont toujours actives, elles coûtent toujours de l'argent aux contribuables. Et là, l'essentiel du déclassement s'est fait entre 2006 et 2011. Depuis, il y a eu un déclassement sur la taxe sur les transactions financières. Bercy nous dit, on ne sait pas combien d'entreprises ça concerne et les montants, c'est pas grand-chose, non chiffrable. Donc, si on s'en retient à ce qui est déjà déclassé, j'ai regardé ce que ça nous coûte aujourd'hui. Les deux principales, ça nous coûte 34 milliards d'euros qui sont utilisés essentiellement par les multinationales françaises. Les 40 milliards de Darmanin plus les 34 milliards, on n'est pas loin de 80 milliards. Là, pour le coup, Emmanuel Macron a raison, ça nous coûte un pognon de dingue.
D'accord avec ce chiffrage, Emmanuel?
J'aimerais bien, faudrait que Christian explique ce qu'il y a dans ces niches fiscales déclassées. Si on s'en tient effectivement à ce qu'il y a dans le projet de loi de finances, ne serait-ce que pour 2019, il y avait 40 milliards, mais en fait, quand vous éliminez un petit peu tout ce qui doit être éliminé, vous arrivez à beaucoup moins que ça. Par exemple, sur ces presque 40 milliards, vous avez ce fameux crédit d'impôt compétitivité emploi. Le problème, c'est que l'année prochaine, ce crédit d'impôt compétitivité emploi, effectivement, il va être transformé en baisse de charges durables, donc il sort des niches. Donc vous voyez déjà, si vous voulez aller chercher des sommes dans les niches fiscales, ça vous fait 20 milliards de moins à trouver. On nous dit qu'il y a des niches fiscales qui vont être sacralisées. En gros, la grille de lecture, c'est est-ce que c'est bon ou pas pour la compétitivité des entreprises et est-ce que c'est bon ou pas pour l'écologie et l'environnement, parce qu'on sent que ça va être la deuxième grille de lecture. Donc évidemment, pas question de toucher au crédit d'impôt recherche, par exemple. Et là, vous voyez que les sommes en jeu sur lesquelles on peut taper, elles restent effectivement
minimes. De 6 à 7 milliards,
Et après, toutes les autres niches, vous tombez à 1 milliard à peu près d'euros maximum par niche. Et donc là, en plus, Gérald Darmanin lui-même le reconnaît, puisqu'il vous dit peut-être qu'il y a 40 milliards, mais en gros, il espère pas quelques centaines de milliards millions supplémentaires. Donc c'est pas une piste qui est si prometteuse que ça, surtout que quand Christian dit les niches fiscales, ce sont des avantages qu'on accorde comme ça. Non, c'est des avantages.
C'est une dérogation, c'est juste une définition juridique.
Mais hein, c'est des dérogations, mais il faut expliquer pourquoi c'est des dérogations, parce que la plupart du temps, alors je suis d'accord, il y a sans doute là-dedans quelques niches corporatistes qui relèvent d'un capitalisme de connivence, certains, mais la plupart des niches fiscales, elles ont été créées justement parce que on avait une fiscalité trop élevée par ailleurs, et donc pour compenser certains des handicaps créés par la fiscalité. Donc vous voyez bien le mécanisme pervers dans lequel on est, c'est ça, c'est qu'il y a trop d'impôts sur beaucoup de types d'entreprises, et que pour soulager ces entreprises, on leur a créé des niches fiscales.
Donc on a compris le débat. Pour vous, on touche pas aux entreprises. Pour vous, Christian, il faut taper plus fort.
Pourquoi? C'est pas que je veux taper sur les entreprises particulièrement fiscalement, c'est juste que ces niches, elles sont inefficaces. Alors, si on les passe en revue, où est-ce qu'on pourrait aller? Non, pas toutes. Je vais prendre juste les trois plus grosses, parce que sinon, on n'a pas fini avec les 474. Les fameuses niches déclassées, c'est celles qui permettent d'éviter les doubles impositions fiscales sur les profits et les dividendes de vos filiales quand vous faites remonter à la maison.
La niche copée?
Non, c'est pas la niche copée qui est sur les plus-values de cession qui est encore autre chose. Là, c'est juste, vous avez une filiale dans un autre pays, vous faites remonter des dividendes, les profits vont être taxés dans le pays. En Italie, par exemple, vous faites remonter des dividendes en France, ça va être retaxé les dividendes. Non, il ne faut pas que ce soit taxé deux fois les mêmes profits.
Ouais, mais ça, en plus, c'est des règles internationales aussi, Christian.
Il y a aussi des règles internationales, mais ça, ça correspond spécifiquement, une niche à 17,6 milliards, une autre à 16,4 milliards, est ce qu'on appelle le régime d'intégration entre les filiales, entre les maisons mères et les filiales. Bref, je ne rentre pas dans les détails techniques. Au total, ça nous coûte 34 milliards. C'est justifié sur le plan économique. On va dire, on va pas taxer deux fois les mêmes profits des entreprises.
Bah oui.
Mais attention, c'est utilisé à fond par les multinationales pour faire de l'optimisation fiscale agressive. Donc là, moi, j'aimerais au moins une évaluation un peu précise pour dire qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui fait de la fraude fiscale. Le CICE, Emmanuel, a dit, ce sera pas une niche à 20 milliards. Ouais, sauf qu'on pourrait dire, on va pas taper sur la niche, on va taper sur la baisse de cotisation sociale. De toute façon, il y a 20 milliards là, de pactole. Pourquoi faut aller chercher sur ce 20 milliards de pactole? Parce que on a très récemment, il y a quelques semaines, une note du Conseil d'analyse économique qui nous dit au-delà de 1,6 SMIC, ces baisses de cotisations sociales, elles ne créent pas d'emploi. Sauf que quand vous allez regarder la note du CAE, du Conseil d'analyse économique, vous apercevez qu'elle donne ses résultats à partir d'une autre étude de l'Institut des politiques publiques qui dit on trouve un effet tellement fort sur l'emploi qu'on a fait des tests de résistance statistique et quand on fait les tests de résistance, ça ne marche pas. En fait, la conclusion générale, c'est que ces baisses de cotisations, elles ne permettent pas de créer de l'emploi. Et on a plein d'autres études qui sont venues faire. Donc là, il y a 20 milliards sur lesquels on peut taper. Puis la dernière, c'est le fameux crédit impôt recherche, 6,2 milliards. Vous avez un rapport de mars dernier de la Commission nationale des politiques d'innovation qui nous dit que le coût a été multiplié par 3, le nombre d'entreprises qui l'utilisent multiplié par 3 depuis 2008. C'est l'année où on a facilité le recours au crédit impôt recherche. On est le deuxième pays de l'OCDE derrière la Belgique où les dépenses publiques dans ce domaine sont les plus importantes. Est-ce que c'est efficace? Parce que c'est ça qui compte.
Ça permet de faire de nos ingénieurs les ingénieurs les plus compétitifs d'Europe, d'État à l'économie.
Sauf que dans le rapport de la Commission, là, il y a marqué que la probabilité qu'une entreprise française développe et dépose plus de brevets, elle a augmenté de 5% pour 6 milliards. Je trouve que c'est cher payé. Et si vous prenez les 50 entreprises les plus innovantes au monde, il y a une seule française qui est Sanofi en 19e place. Donc là, c'est quand même pas très très efficace. Il y a quand même du grain à moudre là.
Alors Emmanuel, le crédit impôt recherche, on pas touche?
Alors le crédit, non mais là on est typiquement dans la logique traditionnelle de l'administration française qui est l'obsession de l'effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'évidemment, sur toutes les niches fiscales, il y aura toujours forcément des entreprises qui seront à la limite, qui jouent un peu, mais l'effet globalement positif. Si vous regardez par exemple tous les critères pour lesquels les entreprises étrangères viennent en France, vous avez parmi les premiers critères évoqués le crédit d'impôt recherche.
C'est du dumping fiscal.
Pourquoi?
C'est une politique de dumping fiscal.
C'est une politique qui vise à attirer les chercheurs du monde entier. Oui, mais ça marche, Christian. C'est pour défendre les entreprises françaises et c'est aussi pour faire venir les entreprises étrangères. Pourquoi Google vient s'installer en France avec ses centres de recherche?
Parce qu'on a des bons ingénieurs compétents.
Aussi, mais il y a plein d'entreprises qui viennent aussi pour ça et ça aide aussi les entreprises françaises. Après qu'il y ait des effets d'aubaine, oui, je suis d'accord. Mais après, c'est toute la question pour savoir dans quelle niche on tape finalement. C'est-à-dire que c'est très compliqué. La restauration, il y aura toujours des très bonnes raisons de ne pas y toucher.
C'est déjà exclu.
Alors après, effectivement, vous avez plein. Moi, je trouve qu'il y a plein d'autres niches qu'on peut évoquer. Hein. Il y a des niches, par exemple, pourquoi les campings ont droit à certaines réductions. Le mécénat d'entreprise, effectivement, vu le débat que ça a suscité récemment au moment de Notre-Dame, on peut penser qu'on y touchera. Il y a une exonération d'impôt sur les sociétés pour les sociétés HLM, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas revenir revenir dessus. Il y a cette fameuse niche Copé qui effectivement, elle, coûte assez cher et sur laquelle on pourrait revenir.
Alors, il y a la taxe kérosène.
Il y a la taxe kérosène. Alors, il y a la taxe. Il y a effectivement, par exemple, pour les entreprises du BTP ou les agriculteurs qui utilisent du gazole non routier. Voilà, il y a des exonérations.
Ça aussi, c'est exclu.
Mais ces entreprises vous disent, bah oui, mais vous voyez,
ouais, c'est puis que tout ça, c'est quoi? C'est quelques centaines de millions. Mmh. Vous allez dans le CICE, dans les niches déclassées, dans le CIA, vous pourrez récupérer des milliards.
Alors, là, sur les allégements de charges, vous n'avez pas répondu, Emmanuel.
C'est-à-dire, c'était quoi la question? Rappelez-moi la question.
C'est pas une question, c'est le point de vue de
sur le CICE, de Christian. Sur les 20 milliards, mais c'est pas efficace pour créer de l'emploi.
Non mais attendez,
il y a deux. Alors il y a deux emplois aidés, ça coûtait moins cher.
Il y a deux problématiques différentes qu'on a toujours tendance à confondre. Qui est un, la problématique, quelles sont les politiques les plus efficaces pour créer de l'emploi.
Ouais.
Et on a voulu mélanger ça, et ça c'est la faute des grands industriels et du patronat qui a voulu mélanger ce débat avec le débat, oui mais est-ce qu'on est compétitif pour attirer des ingénieurs? C'est pour ça que les industriels en fait voulaient qu'on élargisse la possibilité d'alléger les charges sur des salaires beaucoup plus élevés que les bas salaires. Or, objectivement, moi il me semble qu'il n'y a pas photo en matière de recherche académique pour vous expliquer que si vous voulez créer de l'emploi, si vous voulez créer de l'emploi, le plus efficace, c'est de baisser les charges sur les bas salaires.
Mais même pas, ça marche pas.
Si ça marche.
Non, ça marche pas.
Si,
mais non, il faut aller regarder les études académiques.
Ça fait des années que ça
se pratique.
Hein.
C'est pas vrai. Vous reprenez tout, reprenez encore les études.
J'ai tout repris.
Que vient de faire le Conseil d'analyse économique.
Et ben justement.
Baisser les charges sur les bas salaires, ça marche.
Non, ça marche pas. Non. Quand on reprend, moi j'ai repris spécifiquement l'analyse du Conseil d'analyse économique qui dit jusqu'à 1,6 SMIC, ça marche. Non, quand on regarde bien dans les détails, ça ne marche pas. Il y a plein d'autres études qui montrent que ça ne crée pas d'emploi.
À Christian qui aime tellement la réduction du temps de travail, que la seule raison pour laquelle ça a créé des emplois, c'est précisément parce qu'on a baissé les charges et qu'on a réduit le coût du travail.
Quand Emmanuel a plus d'arguments, il revient aux 35 heures.
Non, c'est pas ça, c'est
alors on va pas refaire le débat des 35 heures.
Ce que dit Christian sur le plan académique, là, est faux.
Vous aurez toutes les références sur Alternative économique dès lundi.
Comment à partir des mêmes références peut-on...
Non, ce que je veux dire,
c'est parce qu'il a pas lu Emmanuel. Il a regardé les comptes rendus de presse, il a pas lu l'étude. Allez voir l'étude, vous verrez que c'est pas si simple que ça.
On pourra se faire effectivement. pour les auditeurs, un petit digest des bons chiffres. Et je termine en disant que effectivement, ce que disaient les industriels, c'était de dire, oui, mais si on n'a pas ces allègements de taxes, nos ingénieurs, ils sont pas compétitifs et on n'est plus compétitifs. Mais c'est deux sujets. En gros, il y a le sujet de la compétitivité et il y a le sujet de l'emploi qui sont deux sujets différents, sachant que on vit quand même dans le pays qui taxe le plus les entreprises au monde et que c'est quand même ça qu'il faut rappeler. Geste Christian.
Et Christian n'est pas d'accord, évidemment. Mais alors, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas la quadrature du cercle pour le gouvernement qui dit quoi qu'il arrive, nous ne prendrons des décisions qu'en cohérence avec la politique économique du gouvernement, politique de compétitivité, d'innovation et de développement durable. Donc ça va être un peu compliqué.
Bah, la question, c'est est-ce que si on taxe un peu plus ou un peu moins les entreprises françaises, ça joue sur leur compétitivité? C'est ça la question qu'on pose finalement. Hein. Et quand on regarde l'impôt sur les sociétés uniquement, hein, l'impôt sur les profits, vous regardez les chiffres de l'OCDE, les recettes d'impôt sur les sociétés, c'est l'équivalent de 2,3% du PIB en France. La moyenne OCDE, c'est autour de 2,8-3%. Donc l'impôt sur les sociétés... on taxe pas plus. Enfin, ça nous rapporte pas plus que les autres pays. Alors, tout de suite, les chefs d'entreprise nous disent « Oui, mais il y a un truc qui est complètement différent en France, c'est ce qu'on appelle les fameux impôts de production. » C'est-à-dire dont l'assiette est assise sur leur contribution foncière, sur leur masse salariale, sur leur chiffre d'affaires, etc. Regardez, en France, ça nous rapporte un peu plus de 3% du PIB, en moyenne dans la zone euro, la moitié. Donc, on est le double de la moyenne de la zone euro, et ça plombe notre compétitivité. Sauf que, comme toujours avec ces questions d'impôts et de dépenses publiques, les périmètres sont pas les mêmes. En Allemagne, il y a une contribution locale, sauf qu'elle n'est pas prise au niveau du local, elle est prise au niveau du profit. Donc les entreprises allemandes le payent, mais c'est pas dans la même case que nous. Il n'y a pas de CICE, il n'y a pas de crédit impôt recherche en Allemagne. Donc les entreprises françaises ont un peu plus d'impôt de production, mais elles ont plein de niches fiscales derrière pour réduire le poids. Si vous faites le total, moi j'ai pris les chiffres de l'OCDE, l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales employeur, les taxes sur les salaires, vous faites le total. Alors là, vous voyez qu'en France, c'est vrai, c'est plus élevé que dans les autres pays de l'OCDE. En face, j'ai pris une source magnifique, l'indice de compétitivité de la France pour Davos. Là, l'indice de Davos, hein, quand même, vraiment la source. Et vous faites le lien entre le niveau d'imposition totale des entreprises, l'indice de compétitivité. Si ça marche, plus vous avez d'impôts, moins vous êtes compétitif. Là, vous avez un nuage de points complètement éclaté, vous voyez rien. Il n'y a pas de lien entre le niveau d'imposition des entreprises et le niveau de compétitivité. Donc, qu'on arrête de nous dire que parce qu'il y a un point de plus ou un point de moins de PIB sur la fiscalité des entreprises, ça va faire exploser ou ça va améliorer la compétitivité des entreprises françaises. C'est pas vrai.
Alors, les chiffres, ils vous disent pas ça du tout non plus. Alors d'abord, si vous prenez alors sur le fait que la France est le pays qui taxe au monde le plus les entreprises, vous avez plein d'autres études, je vous cite celle de Pricewaterhouse avec la Banque mondiale qui dit que quand vous prenez tout en compte, la France est le pays qui taxe le plus les entreprises. Sur les impôts à la production, ce qu'il faut bien souligner, et c'est la différence de l'Allemagne, parce que Christian dit en Allemagne c'est prélevé sur les profits, mais ces impôts à la production, il faut savoir que les entreprises doivent les payer avant même d'avoir produit le moindre bien ou le moindre service. Donc c'est des coûts fixes en fait pour les entreprises, et c'est deux fois plus à peu près que dans la moyenne de l'OCDE. C'est quand même 70 milliards d'euros par an. Quand Christian dit que ça n'a pas d'impact sur l'activité, sur la compétitivité et sur l'emploi, vous pouvez aujourd'hui faire un lien totalement direct entre le niveau de fiscalité, parce que c'est souvent de la fiscalité locale, et ben vous regardez que comme par hasard, c'est dans les régions où les impôts de production sont les plus élevés que vous avez les taux de chômage les plus élevés, comme la région PACA, et c'est dans les régions où vous avez ce taux d'impôt à la production les plus faibles, comme par exemple...
Mais ça va dans quel sens, Emmanuel?
Quand vous avez les taux d'imposition sur la production les plus faibles...
Si vous avez peu d'activité, plus de poids d'impôt,
c'est là que vous avez le moins de chômage.
Et en PACA, ça peut être l'inverse.
Vous avez beaucoup d'impôts à la production, vous avez aussi beaucoup de chômage, et moi je peux pas finir sans dire que le vrai cancer, et là où je suis d'accord avec Christian, c'est que le plus important en France, le plus pénalisant, ça n'est pas le niveau absolu de fiscalité. Parce qu'un chef d'entreprise, il vous dit quoi? Il vous dit, mais attendez, moi, un taux de prélèvement, quel que soit son niveau, je l'inclus dans mon business plan. Le vrai cancer...
C'est l'instabilité fiscale.
Exactement. Le vrai cancer français, c'est l'instabilité... L'instabilité fiscale. Prenez ce que vous dit le cabinet Tâche, par exemple. Hein, c'est un cabinet de consultants. Il vous dit...
Les grands cabinets
vous avez
de gauche.
Six patrons sur 10 qui vous disent qu'ils préfèrent des règles lisibles et stables à une baisse des impôts. Voilà, parce que aujourd'hui, la France, c'est même plus le problème de savoir combien on va chercher sur quelques millions. C'est à combien d'impôts différents.
On pourrait supprimer les niches fiscales aux entreprises du moment qu'on n'y touche plus après.
Parrainer la croissance, c'est des milliers de chefs d'entreprise. La seule revendication qu'ils ont avant chaque élection présidentielle, à 80%, ils vous disent, surtout sur le plan fiscal, ne touchez à rien. C'est plus important que de bricoler, d'aller chercher quelques centaines de millions dans des niches ou pas des niches, qui crée un sentiment d'instabilité fiscale.
Allez, on supprime les niches, on n'y touche plus, comme ça c'est stable.
Voilà, c'est
parfait.
Ça.
Et ben les patrons ils signent avec ça, Christian Charrier.
Parfait, moi aussi.
Mais les entreprises ont été plutôt bien soignées depuis le début du quinquennat.
Alors, c'est vrai que si on regarde, par exemple,
la compétitivité n'a pas explosé, le chômage n'a pas vraiment baissé.
L'attractivité a augmenté. Oui, attendez, je dis pas que les entreprises elles ont été défavorisées depuis le début du quinquennat. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours cette notion, faut voir d'où on part. On part d'une situation qui était extrêmement défavorable pour les entreprises par rapport à leurs concurrentes. Si on a deux fois moins de TI, ces entreprises de quelques milliers de salariés, que les Italiens et trois fois moins que les Allemands, quand Christian dit
c'est
que ça n'a pas d'impact...
Fiscalité.
Mais bien sûr que si, c'est lié en partie à la fiscalité.
Qu'il faut rééquilibrer l'ensemble des prélèvements obligatoires. Les impôts plus les cotisations sociales, c'est payé à 60% par les ménages, à 40% par les entreprises. Je pense que si on pouvait rééquilibrer un peu, on irait dans le bon sens.
Christian Chavagneux, Alternative Économique, Emmanuel Le Chypre, BFM Business.
Et sur la conclusion, on est
d'accord. Merci à vous. C'est déjà ça. Dans un instant, notre invité Stefano Scarpetta, directeur de l'emploi à l'OCDE, qui publie un rapport sur l'avenir du travail. Mais d'abord, le reportage.
Flora, on est dans un des bureaux de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Alors Flora, vous avez postulé pour cette entreprise en 2017 et via une vidéo que vous avez faite, une vidéo en différé.
Bah, en fait, c'est mon futur employeur, donc la personne qui a répondu
à votre candidature.
À ma candidature spontanée, qui m'a envoyé ce lien.
Et alors, du coup, comment ça s'est passé? Vous vous rappelez? Vous êtes entraînée devant votre miroir? Ça doit pas être simple.
Non, c'était pas simple, parce que c'est un peu étonnant comme concept. C'est des questions, on a une minute pour répondre.
Ah, on a une minute pour répondre?
Oui, faut pas se louper, quoi.
Et c'était quoi les questions qui vous étaient posées?
Donc les premières questions, c'était vraiment sur plus des questions de personnalité, quelle était ma vision du voyage.
Ça a duré combien de temps au total?
10 à 15 minutes, je dirais, pas plus.
Ça a marché?
Oui, j'ai été contactée pour la suite, un entretien en live. Ça fait plaisir aussi.
Voilà, on l'aura compris, Flora a été recrutée en répondant à des questions programmées auxquelles elle a répondu par vidéo. Sa vidéo a ensuite été envoyée au recruteur qui l'a convoquée pour un entretien d'embauche. Cette méthode de recrutement, surtout utilisée par les grandes entreprises, est en train d'évoluer vers des vidéos dont le contenu est maintenant analysé par une intelligence artificielle. Aux États-Unis et en Corée du Sud, l'intelligence artificielle est déjà largement pratiquée par les recruteurs, allant même parfois jusqu'à l'analyse faciale des candidats. Dans le monde, 40% des recruteurs se disent intéressés par l'IA, intelligence artificielle, 14% l'utilisent déjà. Et en France, eh bien, l'intelligence artificielle sera-t-elle l'arme secrète des recruteurs dans les années, les mois qui viennent? C'est un reportage d'Anaël Verzo. Et avec elle, on retrouve Flora, la candidate qui a donc été recrutée grâce à sa vidéo différée.
Flora, là, il y a quelque chose qui existe hein, maintenant et qui s'est développé à partir de ce concept de vidéo en différé, qui est ce même principe-là, mais avec en plus l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou c'est quelque chose qui vous fait peur ?
Ça, je pense que ça élimine des candidats qui, potentiellement, n'ont pas forcément la même façon de... le même langage, le même parler, qui viennent pas du même univers, mais qui sont quand même des candidats qui ont aussi peut-être une vision différente, mais qui pourraient potentiellement coller avec l'entreprise. Donc,
quand vous avez discuté ensuite avec la personne qui vous a recruté, est-ce qu'elle vous a dit, cette personne-là, ce qui lui avait plu chez vous quand elle a regardé la vidéo ?
Honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est, encore une fois, les questions parfois importent peu. C'est plus en fait l'attitude qu'on va avoir et le sourire. Je pense que c'est, comme on dit, les premiers instants quand on rencontre une personne sont déterminantes. Et en tout cas, c'est les feedbacks aussi que j'ai reçus effectivement de mon
entourage. C'est le retour qu'elle vous a donné ?
Oui. C'était plus que ce jeu dégagé, en fait, qui lui a plu et qui lui a donné envie d'aller plus loin, plutôt que exactement les mots ou les réponses que j'ai pu avoir aux questions.
Je me trouve à Paris, rue du Sentier, juste devant les locaux de l'entreprise Easy Recruit, qui développe un système d'intelligence artificielle vidéo qui s'appelle Smart Ranking. Alors, en gros, ça permet d'attribuer une note aux personnes qui postulent en fonction de leurs prestations devant la caméra. Et là, on a rendez-vous avec François Vimont, d'Easy Recruit. Alors, François Vimont, là, on se trouve devant votre écran d'ordinateur. Et on a donc une vidéo d'une candidate qui a postulé donc sur un poste. Et elle s'exprime face caméra.
Alors, bonjour, je m'appelle Imane Negrouche. Je travaille en tant que technical account manager. Manager, pardon.
Voilà, elle se reprend.
Pour me présenter, j'ai fait une école d'ingénieur.
Là, il y a pas mal de E, mais...
Donc, on voit au début qu'il y a ce qu'on appelle des disfluences, donc un petit peu des hésitations. Il y a des silences qui ne sont pas trop maîtrisés. Il y a beaucoup de mots parasites. On entend des « et eux », des « voilà », des... exactement comme je viens de le faire, c'est-à-dire des espèces de moments un petit peu de flottement dans ses propos. Et on voit qu'au fur et à mesure, sa communication se met en place progressivement. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, il me semble qu'il y a beaucoup moins d'hésitation et que les termes qu'il utilise sont de plus en plus précis. Et on va dire la capacité à bien exprimer, à se présenter sous son meilleur jour devient de plus en plus bonne au fur et à mesure de la vidéo.
Donc elle a été classée en numéro 1 ou...
On va dire sa jauge de recommandation est complètement verte, donc ça veut dire qu'elle fait partie probablement des meilleurs candidats ou candidates pour la campagne de recrutement qui était de directeur, enfin responsable des ventes.
Donc selon l'algorithme. Selon l'algorithme.
Absolument.
Et donc elle a été recrutée.
Elle a été recrutée, absolument.
Et la première question posée par l'employeur, enfin par le recruteur...
Dans cet exemple-là, oui.
Première question, si je demandais à vos amis ce qu'ils pensent de vous, que me diraient-ils ?
Voilà.
Et la réponse, c'est en vidéo.
Et la réponse est en vidéo. Et donc, ce que va faire concrètement l'algorithme va analyser à la fois le contenu verbal et le contenu non-verbal des réponses du candidat ou de la candidate. Donc, c'est ce qu'elle dit, les mots qu'elle utilise et comment elle s'exprime, d'accord ? Donc, quelle tonalité ? Est-ce qu'il y a des fluctuations dans la voix ? Est-ce qu'il y a des hésitations ? Donc voilà, le Smart Ranking, c'est un classement. Il va venir étudier les compétences sociales des candidats et placer en haut de liste, non pas ceux qui ont candidaté le plus récemment ou ceux qui ont la meilleure école ou la meilleure précédente expérience, mais ceux dont les compétences sociales les plus élevées. On va regarder également la diversité du champ lexical. On va comptabiliser le nombre de mots différents que va utiliser un candidat dans ses réponses vidéo et on va les comparer à la moyenne de mots qui sont en général utilisés par les candidats. Si un candidat utilise plus de mots différents que la moyenne, ça va avoir un impact positif sur son classement. Et s'il utilise moins de mots que la moyenne, ça sera un impact négatif. Donc on va regarder si par exemple le candidat...
Alors quand vous dites « on », c'est la machine.
L'algorithme, bien entendu. Donc il n'y a absolument pas d'intervention humaine dessus. Est-ce que les mots sont plutôt riches de sens ou faibles de sens? Et tout ça, en fait, ça va donner une indication sur la capacité qu'il va avoir le candidat à être efficace dans sa communication et dans son travail avec les autres.
Et est-ce que l'algorithme peut reconnaître tout type de voix? Par exemple, s'il y a des accents. Quelqu'un qui a un accent du Sud ou un accent ch'ti, par exemple, est-ce que l'algorithme va bien reconnaître les mots?
Alors, il y a forcément un impact en fonction des accents. Ça, c'est quelque chose de sûr. Il y a les questions d'accent, mais il y a également les questions de qualité en fait, de la vidéo qui peuvent aussi impacter si quelqu'un parle très, très faiblement.
Des discriminations algorithmiques, si on peut dire.
Exactement, absolument.
Ces discriminations semblent pour le moment inévitables. Un logiciel d'Amazon discriminait les femmes qui utilisaient moins le mot « exécuter » que les hommes. Et selon une étude du MIT, le taux d'erreur de ces systèmes est de 1% pour les hommes blancs et de 35% pour les femmes à la peau foncée. Chez Michelin, où l'outil est en phase de test, on utilise surtout l'intelligence artificielle pour lire les CV et faire des recoupements d'informations.
Donc, je m'appelle Sophie de Villepin, je travaille chez Michelin depuis 16 ans. Je m'occupe de l'expérience candidat, de l'intégration et d'expérience employée. En ce moment, chez Michelin, nous recrutons à peu près 2000 personnes par an. Alors, le recrutement par algorithme, nous démarrons principalement avec notamment les licences LinkedIn.
En quoi ça consiste exactement?
Eh bien, ça consiste en fait à pouvoir bénéficier de l'ensemble des personnes qui ont leur profil LinkedIn renseignés et de pouvoir, en fonction des critères de recrutement que l'on cherche en termes d'expérience, de type de poste, etc., de pouvoir identifier des personnes qui sont peut-être pas en recherche active, mais qui se sont dit intéressées peut-être, et de les approcher grâce à ces algorithmes et à ces données.
Mais du coup, il faut que les candidats rentrent les bons mots-clés pour pouvoir correspondre à vos mots-clés à vous.
Oui, mais les candidats, en fait, ils sont authentiques. Ça se fait de manière simple et authentique, quoi. C'est toute l'intelligence, justement, qui est mise dans le rapprochement des données. Et ça nous évite aussi, peut-être de temps en temps, d'avoir usage à des cabinets de recherche et de chasse. On gagne du temps.
Et vous êtes sûr que ça fonctionne bien? Vous dites, on a confiance dans cette machine, quoi, finalement. Bah, c'est quand même une machine.
Bah, on a confiance parce qu'après, ça remplace pas la relation humaine, en fait. Après, on écrit, on lui indique que nous, on a quelque chose à proposer. Après, c'est l'humain qui reprend le dessus, le processus de recrutement classique qui arrive, en fait.
Le géant de la grande consommation Unilever est passé à l'étape suivante. Son intelligence artificielle analyse les traits et la reconnaissance faciale des candidats. C'est aussi le projet d'Easy Recruit. Michael Cabrol, je vais vous laisser vous présenter.
Donc, je suis le CEO et fondateur de la société Easy Recruit. En quelques mots, on est éditeur de logiciels à destination des professionnels des ressources humaines. C'est une société qui se développe. On est près de 90 collaborateurs aujourd'hui, présents sur Paris, Milan, Madrid et Dubaï. On a un peu plus de 500 clients, plutôt des grands comptes. On travaille plutôt avec des sociétés de taille importante. On a la chance d'avoir 70% du CAC 40 qui utilisent nos solutions aujourd'hui. Nous, on pense que l'IA n'en est qu'à ses balbutiements. On n'est qu'au début, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le prochain critère qu'on va inclure, c'est la partie vidéo. Donc tout ce qui est comportemental, gestuel, etc. Pour l'instant, ce n'est pas un critère qu'on analyse.
C'est-à-dire que c'est la machine, en fait, hein, qui va analyser les expressions, les yeux qui vont se fermer, mouvement des lèvres, etc. Dire ça correspond à un mensonge ou au contraire à quelqu'un de sincère.
Alors nous, on sera incapable de dire si c'est un mensonge, quelqu'un de sincère, etc. C'est tout le principe du machine learning. Enfin, l'intelligence artificielle va apprendre par rapport aux évaluations précédentes qui ont été faites. Pour améliorer un outil d'intelligence artificielle, il faut de la donnée. L'IA se nourrit à la donnée, donc plus on aura de données, plus l'outil sera intelligent en fait. Donc avec le temps, l'outil va forcément s'améliorer naturellement.
De quel type de données par exemple?
Ouais, des vidéos de candidats et des évaluations de recruteurs. Plus on va réussir à avoir de la donnée qualifiée, plus l'outil sera intelligent, ce qui nous permettra ensuite de dupliquer notre outil par type de métier. C'est-à-dire qu'avoir un outil qui marche pour les fonctions commerciales, pour les fonctions marketing, pour les fonctions finance, on n'est pas encore là. Mais c'est le but en fait, c'est d'avoir assez de données pour pouvoir dupliquer notre outil par type de poste.
Le recrutement par intelligence artificielle, c'était un reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamp.
Que seront nos emplois de demain? Et d'abord, y aura-t-il du travail pour tout le monde? On le sait, c'est une crainte largement répandue que l'automatisation, la robotisation de nos usines, de nos services supprimera immanquablement de nombreux postes de travail. Pour autant, non, l'avenir du travail n'est pas forcément une dystopie. Et c'est ce que souligne le dernier rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, sur les perspectives de l'emploi à court et moyen terme. Oui, bien sûr, il y a des risques, pas tellement sur la quantité d'emplois disponibles d'ailleurs, mais sur leur qualité, des risques pesant notamment sur les catégories professionnelles les plus exposées, moins formées, moins qualifiées. Des risques, mais pas de scénario catastrophe, si toutefois les politiques publiques arrivent à s'adapter aux transformations à venir, à saisir les opportunités du numérique, de la mondialisation et de l'augmentation de l'espérance de vie. Ai-je bien résumé la situation ? Stefano Scarpetta, vous êtes le directeur de la Direction de l'Emploi, du Travail et des Affaires Sociales à l'OCDE. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le nombre d'emplois n'est pas voué à diminuer, est-il écrit dans ce rapport, mais les disparités dans l'emploi, en revanche, pourraient s'aggraver du fait de l'automatisation.
Déjà, si on regarde les données d'aujourd'hui, en France, dans les pays de l'OCDE, on a un taux d'emploi, donc le nombre de personnes en âge de travailler qui ont un job, les plus élevés de l'après-guerre. Donc l'économie aujourd'hui, en France, en autres pays de l'OCDE, génère plus d'emplois, donc on a des taux d'emploi plus élevés. Si on se projette dans le futur, il y a beaucoup d'incertitudes, évidemment, mais toutes nos analyses nous disent que il n'y a pas forcément un risque d'un chômage technologique des masses, mais plutôt d'une pression vers des inégalités sur les marchés du travail entre ceux qui auront des opportunités de travail parce qu'ils ont les bonnes compétences, ils sont dans les bons domaines économiques, et d'autres qui auront peut-être un travail, mais un travail qui n'est pas très bien payé, qui n'a pas forcément de très bonnes perspectives de carrière.
Alors, pour donner quelques chiffres, 14% des emplois actuels auront été automatisés dans les 20 ans. C'est un peu plus pour la France, hein, 16,5% en France. Et 32% des emplois auront été complètement transformés, surtout, donc, c'est ce que vous venez de nous expliquer, surtout les emplois peu qualifiés.
Tout à fait. Donc, plus ou moins, il y aura 50% de jobs qui ou bien vont disparaître, ou minorité, donc 16% pour la France, parce que la grande majorité, 70% ou plus des tâches qui sont accomplies dans ces jobs aujourd'hui pourront être accomplies par des machines, par des robots, par l'intelligence artificielle. Mais il y a un autre 32% en France dans lequel le job va rester, mais en grande partie des tâches d'aujourd'hui pourront encore une fois être accomplies par des machines. Et donc les travailleurs devront acquérir des compétences différentes pour rester complémentaires par rapport à ce que les machines pourront faire demain.
Alors on va y venir, ça c'est l'une des leçons de ce rapport, hein, mettre l'accent sur la formation, on va en parler. D'abord le constat, l'autre constat, puisque les craintes que nous avons sont tirées de l'expérience aussi, on constate déjà une certaine polarisation du marché du travail liée au progrès technique, hein, entre les emplois hautement qualifiés et les emplois peu qualifiés, souvent de forme précaire. Il y a en revanche beaucoup moins d'emplois à salaire intermédiaire pour la classe moyenne.
Mais c'est ça. Déjà, dans les derniers 20 ans, surtout les derniers 10 ans, on crée de l'emploi hautement qualifié, mais on crée aussi de l'emploi plutôt faiblement qualifié, parce qu'on est en économie des services, on a beaucoup de services qui demandent des travailleurs qui ne sont pas forcément très hautement qualifiés.
Et des emplois précaires en plus.
Et en plus, on a des contrats à courte durée, précaires. Et au milieu, on perd de l'emploi. Et ça, ce sont des emplois plutôt de la manufacture, plutôt à niveau des compétences intermédiaires. Et donc, il y a justement cette pression de l'emploi qui se génère dans les deux extrêmes, mais pas au milieu, là où il y a beaucoup de travailleurs de la classe moyenne.
C'est ce qui entraîne ce sentiment de déclassement dont on parle beaucoup, hein, ces derniers mois. Ces craintes sur l'avenir du travail recoupent la crise sociale, en quelque sorte, hein, qu'on connaît en France depuis quelques années aussi, on peut le dire. Et c'est ce que montrait d'ailleurs une autre enquête récente de l'OCDE, un ressenti négatif des populations face aux services publics inadaptés, aux prestations sociales insuffisantes, aux inégalités. Pour l'OCDE, il est urgent d'agir, c'est écrit dans le rapport, hein, pour organiser, dites-vous, une transition positive et la plus inclusive possible de tous les travailleurs.
Oui, premièrement, les jobs les plus à risque d'être automatisés sont les jobs à faible niveau de qualification. Donc, ce sont les travailleurs faiblement qualifiés qui sont plus à risque. Ils sont ceux qui reçoivent moins de formation professionnelle dans tous les pays de l'OCDE, inclus en France. Mais il y a un sentiment un peu d'incertitude qui est aussi liée à la classe moyenne, parce que justement sur les jobs de la classe moyenne, ceux qui sont en train de se réduire, et donc certains pourront faire les pas vers des jobs plus hautement qualifiés s'ils ont accès à la formation, mais d'autres sont un peu à risque de glisser entre guillemets vers des opportunités de travail moins bien payées avec moins de perspectives de carrière.
La formation est un enjeu essentiel. Vous parlez d'une bombe à retardement, hein, si l'essentiel n'est pas fait. Il faudra changer de métier beaucoup plus souvent à l'avenir, en quelque sorte. Ça, c'est un constat connu. Mais la formation doit profiter à ceux qui en ont le plus besoin. Mais comment? Comment fait-on pour y arriver?
C'est intéressant parce qu'en tous les pays de l'OCDE, en moyenne, disons, dans l'OCDE, 40% des adultes reçoivent une formation professionnelle. Les travailleurs faiblement qualifiés, c'est plutôt de l'ordre de 10-20%. En France, c'est même moins. Donc, en moyenne, c'est 32%. Pour les faiblement qualifiés, c'est encore beaucoup moins. Donc, ceux qui, en théorie, auront plus de besoin d'avoir accès à la formation professionnelle, reçoivent de moins. Et donc, il faut changer le système. C'est pas une question de ressources en France. La France dépense beaucoup d'argent déjà sur la formation professionnelle. C'est un ciblage vers les travailleurs les plus démunis, les plus faiblement qualifiés. Mais aussi, il faut aussi les motiver. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas participer. Ils comprennent pas, ils savent pas exactement pourquoi il faut avoir accès à la formation professionnelle, pourquoi il faut changer un peu. Parce que justement, ils ont un job, peut-être ils pensent que ce job va rester, alors que ce job peut être précaire, peut-être il va rester, peut-être il faudra qu'il évolue de façon très importante.
Alors est-ce que les réformes engagées dans ce domaine par l'actuel gouvernement vont sur la bonne voie?
Mais il y a plusieurs choses. D'un côté, je crois...
Je parle de formation professionnelle.
Oui, sur la formation professionnelle, la France est un peu à l'avance par rapport à d'autres pays sur les comptes personnels de formation. C'est cette notion que quand même, c'est un droit de travailleur d'avoir accès à un certain montant d'argent pour pouvoir s'informer avec les soutiens et aussi l'orientation de la part des pôles emploi et aussi des employeurs. D'autres pays comme le Singapour par exemple, ou même l'Allemagne maintenant, sont en train de considérer des mesures similaires. Aujourd'hui, dans la grande majorité des pays, la formation est obtenue par le biais d'un contrat de travail, surtout pour ceux qui ont un contrat stable de travail, entre un employeur et un employé, un travailleur. Et donc, il faut quand même mettre les travailleurs au centre de cette décision sous la formation professionnelle, l'engager, les responsabiliser, mais aussi les donner des moyens pour comprendre quelle formation a besoin, pas seulement pour le job qu'il fait aujourd'hui, mais aussi pour le job qu'il fera demain.
Alors dans les mesures que vous préconisez, il y a aussi l'élargissement des régimes de protection sociale à tous les travailleurs que vous dites atypiques, travailleurs indépendants, dont l'emploi et surtout la perte d'emploi n'est pas sécurisée, pas encadrée.
Oui, en France, dans les pays de l'OCDE, un pays européen surtout, on a un filet de protection sociale assez bien développé. Sauf que, pour certaines catégories de travailleurs, ces filets de protection sociale n'offrent pas franchement une couverture, une protection adéquate. En France, c'est surtout les travailleurs indépendants. Bon, certains travailleurs indépendants n'ont pas besoin, mais d'autres sont plutôt les mêmes, ont plus ou moins les mêmes niveaux de risque de vulnérabilité que les employés. Donc, la France, par exemple, a déjà développé des extensions de la protection sociale aux intermittents du spectacle. Et donc, la réflexion, c'est est-ce qu'on peut élargir cette forme de protection sociale à d'autres travailleurs indépendants qui sont indépendantes d'un point de vue du contrat de travail, mais qui dépendent d'une seule entreprise.
Par exemple les plateformes.
Les plateformes. Mmh. C'est un très bon exemple. Mmh. Ils sont indépendants d'un point de vue de leur statut, mais ils dépendent d'une seule compagnie, d'une seule société.
Mais comment élargir à ces travailleurs la protection sociale? Comment développer davantage la négociation collective et le dialogue social, comme vous le demandez également?
D'un côté, sur la protection sociale, il faut élargir à certaines catégories de travailleurs indépendantes qui, encore une fois, ont une sorte de dépendance à une seule entreprise. Donc ça, c'est faisable. La France, avec l'intermittent du spectacle, a déjà, en quelque mesure, élargi, développé cette système. Il faudra simplement l'amplifier à d'autres catégories de travailleurs. L'autre chose un peu plus compliquée, c'est de donner l'opportunité à certains travailleurs indépendants qui dépendent d'une seule plateforme de aussi pouvoir négocier, par exemple, les conditions de travail et les salaires. Là, encore une fois, c'est une interprétation de la loi sur la concurrence, mais c'est quelque chose que beaucoup de pays sont en train de mettre en œuvre, sur lesquels ils sont en train de réfléchir.
Alors, vous proposez d'adjoindre aux mesures ciblées des aides plus universelles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais disons que la protection sociale dans nos pays, dans France, est beaucoup liée à l'emploi, donc à un contrat de travail. Mais il y a certaines aides, comme par exemple l'aide aux enfants, à l'enfance, qui pourraient être universelles, données à tout le monde, au priori de...
C'est un peu le cas des allocations familiales.
Voilà, c'est ça. Et c'est la chose qu'il faudrait faire aussi dans d'autres pays.
Alors, de façon générale, Stefano Scarpetta, vous dites que le progrès technologique et la mondialisation peuvent être source d'une meilleure productivité et d'un bien-être augmenté. C'est une vision optimiste de ce que peut être le monde du travail à l'avenir, hein, dans lequel l'individu occuperait une place centrale. C'est pas un peu idyllique?
Mais c'est qu'on voit déjà, non? Les nouvelles technologies, même la globalisation, quand même nous donnent accès à des services, des produits de consommation, de meilleure qualité, à des prix plus faibles. Donc il y a énormément de potentialités, même en termes d'opportunités d'emploi. Sauf que, pas tout le monde aura accès à cette opportunité d'emploi. Donc je crois que comme consommateur, tout le monde va en bénéficier d'une façon ou d'une autre. La question, c'est plutôt que certains travailleurs n'ont pas les moyens eux-mêmes de pouvoir en bénéficier. C'est eux qu'il faut vraiment se concentrer, cibler les interventions, cibler les mesures. Je crois que le futur peut être un futur positif si on a les bonnes politiques en place.
J'ai dit tout à l'heure que les craintes étaient un peu tirées de l'expérience parce qu'effectivement, les avancées technologiques ont fait plutôt augmenter les emplois précaires ces dernières années. Elles ont creusé les inégalités. Comment espérer que dans l'avenir, ce soit différent?
Il faut des politiques plus ciblées. Il faut des politiques qui vraiment vont au cœur de problèmes et que surtout aident ceux qui ont du mal à profiter de cet avantage. Imaginez-vous la révolution numérique dans des opportunités de travailler chez eux, travailler quand on veut, comment on veut, dans des opportunités à des gens qui ont des problèmes, des handicaps, de pouvoir participer de façon plus active à notre société. Donc il y a plein d'opportunités, mais de l'autre côté, encore une fois, il y a cette pression vers une force inégalitaire qu'il faut absolument à laquelle il faut s'attaquer.
Stefano Scarpetta, directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE. Je renvoie sur ce rapport de l'OCDE sur l'avenir du travail, rapport 2019. Merci beaucoup d'être passé par le Mag Écho de France Inter. Dans ma vie au boulot, Sandrine Foulon, vous nous parlez donc de ce bonus-malus sur les contrats courts qui devrait voir le jour pour les entreprises privées. Mais pourquoi n'en parle-t-on jamais pour le secteur public? C'est la question que vous pose Jean-Christophe, agent de la fonction publique territoriale.
C'est vrai Jean-Christophe, la fonction publique n'en est pas encore là. Pourtant, l'État employeur n'est pas toujours exemplaire. À côté des fonctionnaires qui bénéficient du statut, l'État, les hôpitaux et les territoires recourent de plus en plus aux contractuels qui ne sont pas de droit privé, mais qui dépendent d'un régime de droit public distinct du Code du travail. Et ce régime est moins favorable que celui des fonctionnaires en termes de rémunération, de carrière, de sécurité, de retraite. Et le flux n'est pas prêt de se tarir. On compte aujourd'hui 1 million de contractuels. C'est un agent sur 5. La Direction générale de l'administration et de la fonction publique ne parle pas de recrutement, mais d'entrée. Pour autant, ces chiffres montrent que les contractuels constituent plus de 50% des embauches d'agents. Ils sont précaires. 40% de ces contractuels sont à temps partiel, contre seulement 11% pour les fonctionnaires, et ces non-titulaires forment les gros bataillons de contrats courts. Alors Jean-Christophe, le gouvernement ne planche pas sur un bonus-malus qui pénaliserait les administrations, mais il réfléchit à un amendement au projet de loi sur la fonction publique. Avant-hier, Olivier Dussopt, le secrétaire d'État à la fonction publique, s'est dit favorable à la création d'une prime de précarité pour les contrats de moins d'un an.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les intéressés.
Oui, comme dans le privé, les contractuels en CDD pourront enfin toucher une prime de fin de contrat équivalente à 10% de leur salaire brut total. C'est mieux, mais cette prime qui devrait coûter 500 millions d'euros par an ne dissuadera pas les administrations de recruter des contractuels en CDD et ça ne règle pas le problème des contrats longs de 2 ans quand on est par exemple auxiliaire de vie à l'école ou ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université. Sans compter que des contrats de projet de 1 à 6 ans pourraient voir le jour, comme dans le privé encore. Ce contrat prend fin quand la mission est terminée et il n'ouvrirait droit ni à un CDI ni à une titularisation. Jean-Christophe, la préférence du gouvernement va clairement à l'embauche de contractuels. Le projet de loi de la fonction publique prévoit que les postes d'encadrement dans toutes les catégories A, B et C soient ouverts aux non-fonctionnaires et à l'autre bout du spectre, que des ruptures conventionnelles puissent être signées entre un fonctionnaire et son administration. Pas de quoi rassurer les syndicats qui tous appellent à la grève et à la mobilisation contre la réforme jeudi prochain.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, merci beaucoup. À samedi prochain, dans un instant, le journal. Et après le journal, on aura tout vu. Christine Masson, Laurent Delmas, à tout de suite.